Bonjour, merci à vous d'être venu ce matin. On va parler de Jules Verne aujourd'hui. Ça tombe bien aux Utopiales. En plus, il y a une exposition en ce moment. En plus, on est à Nantes, donc on a vraiment plein de raisons de parler de Jules Verne. On va parler essentiellement de Jules Verne au cinéma et sur grand écran avec plusieurs intervenants. Il nous en manque encore un, mais il devrait arriver. Donc voilà. Donc tout d'abord, Agnès Marceau, excusez-moi, c'est le matin, c'est un petit peu compliqué. Archiviste, paléographe à la bibliothèque de Nantes, au musée Jules Verne, fondatrice de la revue Planète Jules Verne. J'ai tout bon jusqu'ici. Hop, et qui vient de faire un ouvrage, justement, Images de Jules Verne. À ses côtés, Marc Caro. Marc Caro, vous connaissez tous Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus, Dante 01. C'est le cinéaste de l'équipe, entre guillemets, sur ce plateau. À ses côtés, François Angelier.
Bonjour.
Bonjour, producteur radio, notamment l'émission Mauvais Genre, que forcément vous écoutez tous, anthologiste, essayiste, qui a fait un Dico Jules Verne en
Oui,
2006.
absolument, en 2006, chez Pygmalion.
Voilà, j'ai découvert ça. Et puis juste à ses côtés, Jean Demerliac. Je l'ai bien prononcé?
Oui,
Bon,
bonjour.
allez. Commissaire de l'exposition Jules Verne Grand Écran, donc qui va pouvoir un petit peu nous parler de cette expo. J'ai noté plus de 300 adaptations cinématographiques de Jules Verne.
Ah oui, c'est l'ordre de grandeur. Enfin, cinématographique, non. En cinéma, plutôt 200 adaptations. Et puis, il y a beaucoup d'événements télévisés, de shows. Et alors là, on est au-delà de 300. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que Jules Verne est aussi facilement adaptable? Est-il facilement adaptable? Et qu'est-ce qui fait que le cinéma s'en soit autant emparé? Qui veut commencer à répondre?
Moi, je vais répondre. Il n'est pas, non, il n'est pas facilement adaptable. Ce qu'il a, c'est qu'il est, il était universellement connu déjà dès l'invention du cinématographe, et c'était forcément un défi pour les premiers pionniers cinématographes, hein, qui l'avaient lu, hein, les Frères Lumière avaient lu intégralement Verne. On peut dire un peu la même chose de Méliès et puis d'autres moins connus. On savait qu'en mettant en scène ces romans, qui avaient déjà été mis en scène au théâtre en féerie avec des grands spectacles, on va dire, on savait qu'on allait faire venir du public. Et comme en plus Verne avait été universellement traduit, et que le cinéma a toujours vécu sur son exportation, hein, dès le début, il est certain que quand on était un producteur à l'étranger, on savait qu'en adaptant Jules Verne de préférence, on allait obtenir du succès. Alors, donc ça, c'est des raisons un petit peu commerciales que je donne, mais par ailleurs, surtout, il y a une collusion qui est très ancienne, très profonde, entre l'œuvre de Jules Verne et l'illustration. Et entre Jules Verne et l'image à lire avant que d'être une image à voir, et tout ça a évidemment fait très bon ménage.
Macaron. Alors,
allô, allô. Oui. Dès le début, Jules Verne, comme vous le disiez, a été traduit. Il a été aussi traduit dans les premières revues de science-fiction américaines. Et c'est toute cette littérature qui a donné la science-fiction telle qu'on la connaît, qui a donné la bande dessinée et qui a donné aussi le cinéma hollywoodien, qui s'est forcément inspiré et qui a été très motivé par les adaptations de Jules Verne. Donc après, forcément, ça a décliné avec Walt Disney qui s'en est emparé et qui a fait des grands films là-dessus, quoi.
François Angelier.
Alors, moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Adapter Jules Verne, c'est facile si on se focalise et on se concentre sur, je dirais, l'imagerie vernienne, c'est-à-dire une sorte de festoiement, ça, de vision, d'image, de personnages qui passent comme ça, qui courent, qui bon. Mais quand on lit Jules Verne un peu comme on le lit en France depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire en essayant d'aller voir dans les profondeurs de son texte, sa littérature. Les forces sombres, toute une dimension peut-être psychanalytique, mythique. Là, je pense que Jules Verne devient compliqué à adapter parce qu'il faudrait là une autre, renouveler un peu le discours au cinéma sur Jules Verne. Alors, on parlait avant le début de l'entretien avec Jean de Merliac du projet de David Fincher sur Nemo. Alors David Fincher, c'est quand même quelqu'un qui sait ce que c'est que de manipuler de la matière noire par sa filmographie. Donc j'attendais énormément du Nemo de David Fincher, qui était un Nemo sûrement noir et un peu angoissant. Et bon, le projet évidemment a planté à cause de Disney, je pense qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc moi j'attends toujours un film moderne vraiment qui renouvelle la problématique et qui nous donne à voir, à entendre le Jules Verne noir un peu inquiétant qui est derrière les belles images.
Bon, je trouve qu'on a trouvé quand même, si c'est un niveau très fin, très en filigrane, il y a cet aspect un petit peu de noirceur dans le personnage de James Mason, du capitaine Nemo, dans le film de Richard Fleischer.
Entièrement d'accord. Et c'est la seule vraie incarnation.
C'est vrai que les Robur le Conquérant par Vincent Price et tout ça sont un peu ridicules, ne vont pas chercher. Enfin, ils sont super. Moi, j'adore. Il y a un côté très grand public, mais ça n'a pas la profondeur qu'a essayé d'amener James Mason dans le personnage.
Oui.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, Robur, il est de toute façon au départ beaucoup moins puissant que Nemo. Donc, à mon avis, c'est normal que ça marche moins bien.
Bah, il a une casquette beaucoup plus ridicule aussi dans le film.
Bah, en fait, c'est parce que je pense que Jules Verne a essayé de refaire Nemo et qu'il ne pouvait pas le faire deux fois. Voilà. Donc, mais je pense que ce qu'il faut ajouter aussi pour peut-être que ce soit complet, c'est que c'est difficile d'adapter Jules Verne, de l'adapter sans le trahir. Mais en revanche, les scénarios sont excellents et donc sont, de ce point de vue, forcément, non seulement faciles à adapter, mais il est normal qu'un réalisateur ait envie de s'en emparer. Même si on n'entre pas dans la complexité, effectivement, de l'œuvre, ça donne quand même une trame qui fonctionne toujours très bien.
Oui, de toute façon, les adaptations cinématographiques de Jules Verne sont quand même toujours très, très, très libres vis-à-vis des romans. Hein, c'est vraiment quand on voit Les Tribulations d'un Chinois en Chine par Philippe de Broca, tout ça,
qui est bien,
vraiment, qui est très très bien. Mais j'adore ce film, mais c'est quand même très très loin du roman original. À chaque fois, il y a aussi le fait que Jules Verne, il y a les adaptations, mais il y a aussi tout ce qui a été inspiration, parce qu'il y a une tripotée de films qui reprend le personnage de Capitaine Nemo, par exemple, qui reprend l'ambiance et l'univers Jules Vernien, mais qui ne sont pas des adaptations de romans.
Oui, on a beaucoup de suites, effectivement, dans le cycle Nemo et le cycle Strogoff, hein, qui sont les deux cycles principaux, on va dire. Michel Strogoff, 13 ou 14 adaptations, hein, c'est gigantesque. Pour Nemo, on peut difficilement compter à cause de ce phénomène de suite. Mais je reviens à ce qu'on disait à l'instant, là, de la facilité d'adapter ou non Verne. En fait, ce qui est intéressant dès qu'on travaille sur les images, justement, ce qui est un peu original dans l'exposition, c'est de montrer que des images et pas de texte. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une fidélité des adaptateurs, effectivement pas par rapport aux récits, pas par rapport aux intrigues, mais il y a une fidélité qui est très proche dans les images. C'est-à-dire que si on prend les planches de poissons, par exemple, de 20 milieux sous les mers, on les retrouve entièrement détourées chez Méliès. Et ça, c'est un phénomène qui se poursuit jusqu'à la fin.
Mais je pense que c'est presque le même phénomène qui s'est produit avec Gustave Doré. C'est qu'il y a eu toutes les illustrations de Poyet et de tous ces gens-là dans les livres ont peut-être plus inspiré que... Enfin, pas que le texte, mais quand même ont eu une genre d'inspiration très forte. Quoi.
Est-ce qu'on peut dire que l'écriture de Jules Verne est cinématographique ? Vous savez, parfois on dit d'un livre que parce qu'il y a des grandes images ou des grands paysages, et est-ce que du coup c'est plus facile ?
Moi, je pense que c'est une question un peu piège là, ouais. Parce que tout le monde tombe un peu dedans. Hein. Ouais. Est-ce que c'est cinématographique ? Moi, j'aurais tendance à dire pas tellement. En fait, mais en revanche, l'image un peu trop grande, un peu bizarre. Hein. C'est vrai que les images de Jules Verne.
Alors, moi, je vais être un petit peu plus tranché que vous. Je vais dire que les romans, il y a tout un aspect très descriptif dans les romans qui sont souvent passés à l'as. Parce que c'est vrai que pendant des pages, on va nous décrire des choses. Et il adorait ça, Jules Verne. Et ça, souvent, c'est passé complètement à l'as. La grande force de Jules Verne, c'est qu'il a créé des personnages qui sont vraiment très très forts, qu'ils soient Nemo, qu'ils soient Robur, qu'ils soient, enfin, il y en a une tonne, ceux qui vont sur la Lune, etc. Et ça, c'est quelque chose que le cinéma a besoin de s'emparer, quoi. Donc, et c'est vrai que quand il y a des personnages forts, il y a souvent des adaptations à partir de ça. Tous les grands personnages de la littérature, que ce soit Robinson Crusoe, Frankenstein, tout ça, ont été
des personnages
adaptés.
Et des images fortes. Parce que quand même, il y a ce phénomène de lassitude dans la lecture d'un Jules Verne, que Butor avait remarqué déjà un peu avant tout le monde. On sait que Jules Verne copiait des livres entiers de géographie, que ces illustrateurs qui n'avaient pas le temps de suivre 5200 gravures, quand même, sur l'ensemble, c'est énorme, copiait aussi allègrement tout ce qu'ils trouvaient, mais il y a quand même, à un moment ou à un autre, une grande image, une chose qui est quand même incroyable, le clou, parce que Jules Verne écrivait des pièces de théâtre qui n'étaient pas du théâtre, qui étaient des pièces à grands clous, et ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué les cinéastes. Ils ont quand même aimé, effectivement, les personnages, mais ils ont surtout, d'abord, en tous les cas, à partir de Méliès, voulu reconstituer ces clous.
Oui, et puis il y a aussi un autre phénomène qui est très intéressant dans Jules Verne pour un cinéaste, c'est qu'il a aussi créé une genre de machinerie. Il a créé le Nautilus, il a créé le vaisseau de Rebur le Conquérant, il a créé des genres d'appareils comme ça, il a créé aussi un ballon dirigeable. Maintenant, c'est quand même très connoté avec Jules Verne pour les tours du monde, etc. Et ça a inspiré quand même tout le steampunk. Donc c'est vrai que son influence est quand même énorme, quoi.
Non, ce que je voulais dire, c'est que je pense effectivement que son écriture n'est pas cinématographique. Je pense que ce qui est cinématographique, c'est, comme on l'a dit, le scénario, les personnages et les dialogues, parce qu'il est fort dans les dialogues. Alors, l'écriture n'est pas cinématographique. En revanche, je trouve que Jean est un peu injuste en disant qu'il recopiait. Parce qu'il ne recopiait pas, il insérait. Et non. Voilà, donc il a quand même ce génie de savoir faire du bon copier-coller. C'est-à-dire qu'il insère la matière documentaire dans une trame romanesque. Et je pense que si on peut avoir le sentiment quelquefois qu'il est trahi par les images ou par le cinéma, c'est parce que du coup, ça fait oublier quand même ce qui est chez lui une vraie qualité littéraire, dont après on peut discuter, et que ce texte, il a été longtemps oublié, justement, par la force de tout le reste. Voilà. Donc, il me semble que c'est un petit peu plus complexe.
Peut-être. Pardon. François Angelier.
Oui, effectivement, quand on pense Jules Verne, il y a brusquement, mentalement, on a l'apparition simultanée d'un texte et d'une image. Il y a une sorte de rapport siamois entre le texte et l'image, et on a l'impression qu'on ne peut pas penser l'un sans penser l'autre. Alors, bizarrement, ça paralyse un peu la question de l'adaptation cinématographique, et je pense que quelqu'un comme Karel Zeman, donc le grand cinéaste, a fait des films pour montrer qu'on ne peut pas faire de film sur Jules Verne, c'est-à-dire qu'il a mélangé l'animation et la prise de vue réelle, et on voit des personnages qui sont des personnages de cinéma se mouvoir dans l'univers des illustrations. Manière de dire qu'il y a un horizon définitif qui est celui absolument intouchable de l'illustration. Donc c'est à la fois extraordinaire, Zeman, et en même temps, il y a quelque chose là-dedans de l'ordre du déceptif. C'est assez bizarre. En plus de ça, je crois que quand on voit il faudrait faire, j'ai pas ça, Jean de Malax, c'est ça par cœur, la liste des romans qui ont été approchés par les cinéastes, effectivement, ce sont les romans sûrement les plus connus ou les plus spectaculaires, ceux qui peuvent le plus prêter en 70 mm à de grandes machineries du cinémascope. Alors qu'il y a des choses plus secrètes, je pourrais dire que les Indes noires, par exemple, histoire de...
Oui, alors ça a été adapté à la télé.
À la télé, mais moi j'attendrais encore autre chose des Indes noires, qui est quand même... Déjà, ne serait-ce qu'aujourd'hui, avec les moyens du cinéma, l'arrivée de l'ingénieur Ford sur le site totalement dévasté de l'ancienne mine, il y a de quoi faire du cinéma, mais alors, phénoménal. La descente dans le puits avec la famille de famille de mineurs fidèles à la mine qui vit dans le souterrain, la petite Nell avec son harfang des neiges. Je pense que il faudrait quand même prendre Jules Verne très au sérieux. Il faudrait adapter Jules Verne comme on adapterait, un grand romancier contemporain, et essayer de... Parce qu'à date récente, il n'y a pas eu énormément de films qui est vraiment...
Le dernier, c'est encore le Tour du Monde en 80 jours, là, avec Jackie Chan.
Donc là, on a quand même un bel exemple de cinéma attractif.
Mais c'est vrai que maintenant, il est, comment ça s'appelle, il est un peu apparié avec des films à grand spectacle, effets spéciaux. Ils ont refait aussi un voyage au centre de la Terre, là, en 3D. Ouais. Oui, tout à fait.
Oui. Depuis le début, mais je pense que c'est ce qui est intéressant. Enfin, moi je trouve ce cinéma peut-être pas forcément effectivement bon, mais toujours.
Non, mais j'adore The Rock, hein. Hein,
pas toujours. c'est pas vrai pour les films muets, parce qu'il y a de très très belles productions, hein, quand même feuilletonesques. Enfin, ouais. Mathias Sandorff 1921, ou surtout le Michel Strogoff de Tourjansky, le ciné-roman, hein, 1926 avec Mozdjoukine. Bon, c'est des films qui ont été des énormes succès, hein, aussi importants que Disney dans les années 50, pour leur époque. Hein. Donc, des très très grands films. Et ensuite, on a certes un film qui n'est pas toujours. Un cinéma qui n'est pas à la hauteur de Jules Verne, peut-être, comme on le souhaiterait à juste titre, mais un cinéma intéressant parce que c'est un cinéma qui ne s'est jamais pris au sérieux. C'est vrai depuis Méliès. Hein. Il y a toujours une collusion très très forte entre l'attraction, hein, l'attraction foraine, et le cinéma de science-fiction. Et c'est vrai depuis Méliès, c'est vrai aujourd'hui. Le cinéma de science-fiction actuellement propose cette simulation, propose cette expérience qui est pas, on n'est pas dans la nouvelle vague, hein, on est dans quelque chose de complètement différent, et qui est vrai depuis Méliès jusqu'à aujourd'hui. Et bon, c'est intéressant parce qu'on voit aussi à côté du cinéma fleurir des parcs à thème. Bon, il n'y a pas les parcs à thème Disney, mais il y a toujours des attractions verniennes dans les parcs de Disney. Et il y a quelque chose qu'on peut trouver décevant, trop commercial, ou ce qu'on veut, mais qui est quand même impressionnant.
Mais en parallèle, il y a quand même toujours des films qui étaient des adaptations de Jules Verne, mais qui étaient moins. Enfin, c'était toujours un peu du spectacle comme ça, mais qui était un petit peu plus. Je pense au Phare au bout du monde ou des choses
comme ça. Le Rayon vert d'Éric Rohmer aussi.
Voilà, il y a eu aussi William Storitz pour la télé avec Drouot aussi. Il y a quand même eu toujours en parallèle des films qui. J'ai l'impression que c'était plus un réalisateur qui avait flashé sur un roman. Voilà, et qui essayait de l'adapter.
Ça, c'est une télévision familiale, il y a des merveilles, mais en plus, c'est intéressant de poser la question du rapport de Jules Verne lui-même avec le cinéma. Moi, j'ai fait un article, une petite entrée dans mon dictionnaire sur le monde comme spectacle. Il y a des moments étranges, je crois que c'est dans Kéraban le Têtu, quand il y a la remontée au nord de la mer Noire. À un moment, Verne écrit que brusquement la nuit est tombée, comme si un machiniste avait coupé les lumières d'une scène de théâtre. Il y a des moments où le monde apparaît à Verne comme une sorte de gigantesque plateau. Un gigantesque plateau de cinéma, on allume, on éteint, on règle les lumières. Donc il y a déjà cet aspect qui est très étonnant. Il y a quand même ce roman. Alors là aussi, il y aurait un film absolument génial à faire, qui est le Château des Carpates. Vous imaginez le Château des Carpates par Marc Caro, par exemple. Vous imaginez.
Bah, quand vous voulez, si vous trouvez le financement, moi je suis partant.
Mais de quand?
Ah bah, c'est un film qui a été adapté en 1981 par Lipski en Tchécoslovaquie. Un film très très caricatural. Mais très drôle.
Alors qu'en plus de ça, c'est le moment de la télévision. Enfin, c'est la seule fois où, selon Michel Serres, d'ailleurs, Verne est prophète en technologie. C'est-à-dire qu'effectivement, là, il inventerait, il voit un peu ce que sera la future télévision. Enfin bon, ça, c'est Michel Serres. Mais c'est quand même absolument, absolument génial, quoi. Et puis, il y a aussi la question de ces adaptations scéniques dont il a lui-même eu l'idée et qu'il a supervisé. C'est-à-dire qu'il a inventé le grand spectacle scénique. Alors bien, à l'époque, il y avait déjà les grandes machines lyriques, les opéras, Aïda et tout ça. Mais il a quand même apporté des éléphants, des transatlantiques et des locomotives sur scène, ce qui est déjà de l'ordre. Donc on pourrait même faire un film sur l'adaptation des romans de Jules Verne au Châtelet, ça pourquoi pas. Donc le personnage, c'est assez complexe en rapport à l'image et à la chose filmée.
On pourrait faire un très très beau film, je pense, sur le tournage de Michel Strogoff de Tourjansky, parce que quand trois trains entiers sont partis de Paris pour emmener cette équipe de Russes émigrés de la Révolution qui tendait un peu à la France les stéréotypes attendus sur la Russie, alors que la Russie soviétique existait, et qui sont allés tourner en Lettonie comme si ils étaient en Russie. Michel Strogoff, avec cette star là des années 30, Mozdjoukine, enfin des années 20 plus exactement, puisqu'il est disparu à l'ère du muet, mais ça c'est un moment qui est fascinant. On pourrait faire un très beau film tourné en même temps que le Napoléon d'Abel Gance au studio de Billancourt, avec les équipes qui changeaient de plateau, qui se déguisaient, enfin c'est incroyable.
Hop, j'ai récupéré un micro. Juste pour s'arrêter, vous avez dit les deux cycles les plus adaptés, on pense à 20 milieux sous les mers et à Michel Strogoff. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons et quelles sont les meilleures adaptations?
Moi, je ne vais pas dire quelles sont les meilleures adaptations. Je peux essayer de dire pourquoi. Parce que c'est deux romans qui sont très, très forts. Donc, 20 milieux sous les mers, ça allie à la fois la personnalité du capitaine Nemo, qui est un peu le héros absolu, et puis évidemment une histoire qui reste extrêmement à la fois spectaculaire. Donc cette dimension-là, il ne faut pas du tout la nier chez Jules Verne. Et en même temps, c'est un roman qui en plus est intrigant, puisque je pense qu'il est extrêmement difficile de dire si le capitaine Nemo est un héros positif ou un héros négatif, ce qu'on en pense, etc. Donc forcément, ça interroge. Pour Michel Strogoff, c'est un petit peu différent. Le héros, là, on peut dire qu'effectivement, il est positif. Mais c'est vrai que c'est tellement romanesque qu'on est entraîné par l'intrigue. Mais il y a quand même un autre roman qui a peut-être été moins adapté, mais qui l'a été, de mon point de vue, plutôt bien, et qui est un roman extrêmement puissant tout en étant plus léger. C'est Le Tour du Monde en 80 jours. Le Tour du Monde en 80 jours de Todd, c'est un très bon film, de mon point de vue. Et en plus, ça rend bien toutes les dimensions du roman, c'est-à-dire l'exotisme, la beauté de la découverte du monde et en même temps la personnalité de Fogg.
Bon, moi, je pense un peu comme vous, 20 milieux sous les mers, un bon film, pour moi, c'est quand on a réussi le méchant. Et quand on a réussi un vrai bon méchant dans un film, on sait qu'on a gagné. Donc là, il est formidable, forcément. James Mason est vraiment extraordinaire.
Oui, mais en même temps, Nemo, il est méchant et gentil. Oui. Donc c'est encore mieux.
Oui, oui, en plus. Mais c'est ça qui fait la force. C'est comme dans Le Silence des Agneaux. Anthony Hopkins aussi.
Il fera un bon Nemo, d'ailleurs.
Voilà, il fera un super bon Nemo. Peut-être un peu vieux maintenant. Mais
oui,
bon,
mais
voilà.
On a raté.
Mais, après, moi, je ne suis pas un grand fan de Michel Strogoff parce que je ne trouve pas qu'il y a eu Kurt Jurgens ou ces gens-là. Je ne les ai pas trouvés vraiment top.
Non, Kurt Jurgens. Voilà.
Ils n'étaient pas terribles.
Il faut voir le Mojoukine. Hein.
Oui, mais je n'ai pas vu.
Ah oui, là, c'est autre chose.
Voilà. Mais après, moi, j'ai un petit... Mais aussi, peut-être encore, parce que c'est à cause de James Mason, j'ai un petit, une petite préférée. J'aime beaucoup Voyage au centre de la Terre.
Très beau.
Qui est très kitsch, mais qui est super. Et puis, j'ai une petite aussi un petit amour pour L'île mystérieuse, parce que c'est la suite, forcément.
Lequel?
On retrouve, enfin... Alors, j'aime beaucoup celui de Scienfield, celui fait avec les effets spéciaux de Harryhausen, ouais. Même si il s'éloigne vraiment énormément du roman. C'est Herbert Lom qui fait Nemo, hein, mais bon, il est moins bien que James Mason. Donc voilà, c'est peut-être aussi une nostalgie d'enfance et des choses comme ça, quoi.
Oh ben moi, j'en suis resté au Fleischer. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est que... C'est sûr que là, on a tout. Avec le 20 milieux sous les mers, on a toutes les capacités à faire du grand cinéma. On a le très grand spectacle. Et on a le très grand spectacle. On peut tout faire. Aujourd'hui, ce serait phénoménal. Et en même temps, on a l'énigme. On a l'énigme du personnage central de Nemo qui est... Alors là aussi, il y a une composition. Et c'est sûr que Fleischer et James Mason... surtout qu'il y a des scènes, par exemple, quand il y a les pronages du navire anglais... Qui déchaîne chez Nemo une espèce de véritable orgasme comme ça psychologique, ah ça y est, en voyant mourir le bateau, un bateau anglais, on sait pas encore, enfin la référence à la mort de sa famille et tout ça, et puis comment dirais-je, là vous parliez du méchant doit être réussi, n'oublions pas que Nemo est dépeint par Jules Verne, l'expression est l'archange du mal. Alors bon, l'archange du mal, vous pouvez faire du cinéma avec l'archange du mal, ça peut être... Je trouve que c'est bien, mais c'est encore timide. Parce qu'il y a des ressources, il y a un potentiel dramaturgique, il y a des ressources poétiques dans les romans de Verne, qui avec aujourd'hui les capacités du cinéma, permettent de faire des trucs mais extraordinaires. On pourrait faire Alien, un Alien vernien, c'est complètement possible. Mais un peu sur les... Toujours un peu frileux... Oh non, c'est pour les enfants, faut que ce soit familial, on va trahir. Mais non, je veux dire, autant y aller, autant pousser le bouchon. Ouais.
Alors, personnellement, j'ai travaillé sur une adaptation de Nemo, pour Christophe Gans il y a quelques années.
Ah ben voilà, voyez.
Où donc j'ai refait les scaphandres, le Nautilus, on l'a modélisé tout ça, et il y avait un peu ce que je pense que vous auriez aimé retrouver dedans.
Faut reprendre.
Oui, mais on n'a pas trouvé l'argent à ce moment-là. Je sais pas si même Fincher l'a pas trouvé, je vois pas comment. Là, France,
Fincher,
va faire.
J'ai lu quelque part, enfin bon, j'ai renseignement de septième main, mais que c'était une histoire de poisson. Enfin, il y avait une espèce de différent avec
le
Disney.
Le poisson n'était pas frais.
sur la manière de concevoir la place du spectacle sous-marin.
D'accord.
Enfin, c'est sans doute, ça m'est sans doute très personnel, mais moi je pense que justement, Messonne, c'est bien parce que justement il y a cette réserve et que ça ne tombe jamais dans l'excès. Et je pense que c'est très vernien, cette manière d'être. Et c'est parce qu'on est toujours sur la limite. Enfin, j'ai bien pourquoi je dis c'est personnel. Voilà. Mais moi j'aime bien cette espèce de retenue qui fait qu'on. On sait que tout est possible, mais on ne nous le décrit pas trop comme dans certains autres films. Donc,
oui.
J'aime
beaucoup James Mason. Je trouve que c'est un immense comédien. Absolument. Ce que je trouve qui était un petit peu raté dans le Fleischer, c'est par exemple le harponneur joué par
Douglas, voilà, c'est terrible.
Par Douglas, qui est pas terrible. Les autres personnages sont vraiment tellement Peter Lorre, j'aime beaucoup Peter Lorre aussi, mais ou le professeur Aronnax,
ça c'est Disney, parce que Disney, il y a toujours l'action pour les grands et puis il y a l'action pour les enfants de 3 ans. Donc il y a l'Otari d'à côté, le scénario parallèle. Donc
en revanche, dans Disney, Aronnax c'est très bien, il faut le citer.
Oui, non, mais il y a du bon du
mais
mauvais, mais c'est vrai qu'on
pourrait
être énervé.
On pourrait
quoi.
Maintenant développer des rapports psychologiques beaucoup plus fins, beaucoup plus. Parce qu'il y a une vraie admiration d'Aronnax, elle y est un petit peu dans le film de Fleischer. Mais on pourrait.
Mais ce jugement qu'on donne sur la timidité des adaptateurs de Jules Verne, moi je le partage entièrement pour la période du cinéma parlant, mais pour la période du muet, c'est très différent.
Tout à fait.
Alors si vous prenez le Mathias Sandorf de 1921, Henri Fescourt, qui avait fait aussi Monte Cristo, qui est un énorme réalisateur. Hein. Alors là, on a toute la veine feuilletonesque, parce que même Verne s'est énormément renouvelé. Il n'a pas fait que ce type de film de science-fiction, enfin d'histoire de science-fiction, plus exactement. Et là, c'est prodigieux. C'est pareil pour Lestrogoff. On peut dire que ça va, l'adaptation de Tourgenski, on voit quand même Mojoukine entièrement balafré à l'écran.
Comme
le Christ. Alors ils ont eu cette idée-là, les Russes de Paris, à force de jouer les stéréotypes, d'en faire un espèce de Christ. Ça plairait aux Français, d'en rajouter dans la couleur russe comme ça. Mais
avec du violon derrière.
C'est marrant, mais pas seulement marrant. C'est de belles images, quoi. De belles images prodigieuses et la veine vraiment épique et feuilletonesque de Verne est bien là.
Je reviens toujours au roman dont on parle moins. Par exemple, alors sur les amateurs de cinéma gore, je ne sais pas si Le Chancelor, qui est une histoire de cannibalisme, pourrait faire un film. Enfin, justement, la scène est voilée, mais ça pourrait être bon. Mais surtout, je pense un roman, Mistress Brannigan. Extra. Alors là, on quitte
le grand
spectacle. L'histoire de cette femme qui accouche pendant qu'elle est folle. Elle a des moments de folie. Et à ce moment-là, pendant cette crise de folie, elle accouche. Et quand elle sort de sa folie, elle ne se souvient pas d'avoir été mère. Je ne dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle d'Agnès. Et alors après, il y a toute une espèce de quête. Elle est un méchant grandiose qui a faim de la protéger, qui est un pervers total. Et elle cherche après. Et alors elle est troublée par un enfant, elle apprendra que c'est le sien. Là, il y a un film. Étonnant, on est plus chez une espèce de drame psychologique noir, très très étonnant. Là aussi, il y a c'est plein de choses à faire.
Maintenant, je ne sais pas si ce sera encore possible parce que faut que ça passe à 20h30, quoi.
C'est une défense de la famille.
Voilà.
Qui sont les grands acteurs, les grands interprètes des films de Jules Verne? Quels sont les acteurs qui incarnent le mieux?
Barrymore, on va dire, pour Nemo, moi je pense qu'il est supérieur à Mason, hein, mais dans les années 20.
En fait, j'aime bien Niven dans Tour du Monde.
Ouais, David Niven est très bon. Ouais. C'est pas des. Je pense pas que ce soit des grandes prouesses d'acteurs quand même dans l'ensemble.
Et puis effectivement, Jürgens est très mauvais dans Strogoff. Voilà. Surtout
après,
que la suite est encore pire.
les genres de
ça manque de méchants, ouais, effectivement.
Les genres de séquelles qu'il y a eu après, avec des Nemo, il y a eu Robert Ryan, il y a eu des gens comme ça, hein, après, ouais, qu'on fait. Bon, et pourtant Ryan est un acteur extraordinaire, mais je pense pas qu'ils aient brillé vraiment formidablement dans ces films-là, quoi.
Non, c'est pas du cinéma de composition.
C'est devenu un peu série B.
Le théâtre non plus ne l'était pas. Hein, je veux dire, le théâtre, on disait, c'est des grosses ficelles. Et puis c'est vrai, on va mettre des paquebots, des trains, des éléphants, la cavalerie. Voilà, c'est du grand spectacle. Hein.
Ce qu'on a dit tout à l'heure, l'adaptation des Tribulations avec Belmondo, oui, quel que soit...
Ouais.
Soient les libertés, à mon avis, un peu discutables, prises quelquefois par le scénario, en tout cas, des trouvailles du scénario pas toujours géniales, Belmondo est un bon héros.
Oui, c'est vrai. Mais,
Ursula Andress est très bien aussi.
Oui, Ursula Andress est bien aussi.
Et Mario David et Paul Prébois sont parfaits aussi. Mais bon, là, on va plus quand même, ça s'éloigne quand même vraiment tellement de Jules Verne, on va plus vers Tintin et tout ça. C'est un peu une suite de l'homme de Rio.
Non, les Tribulations, ça s'éloigne pas dans l'esprit de Jules Verne.
Donc, oui, c'est le même, c'est de la ce même point trame, de
vue. Ah non, puis même, ça rend bien ce que Jules Verne voulait rendre, c'est-à-dire cette espèce d'interrogation face à la vie, dans ses côtés absurdes, etc.
Il n'y avait pas le côté comédie quand même, j'ai pas ressenti ça moi
dans les Tribulations,
ouais,
de Jules Verne,
ouais.
Ah si.
Ah bon, j'ai pas ressenti ça moi. Ouais.
François Jolie. Non,
puis il y a les films selon Jules Verne, d'après Jules Verne, puis il y a les films verniens. Moi je sais pas, par exemple Steam Boy, le dessin Otomo, animé, ouais, d'Otomo, ouais, et pour moi peut-être les plus grands films verniens de tous les temps pour l'instant. Cette espèce de grande rêverie steampunk autour d'une machine qui se dresse et qui à la fin, pendant trois quarts d'heure, on voit la machine s'effondrer et l'espèce d'apocalypse mécanique. Là, c'est un grand film. D'ailleurs, Otomo, que j'ai eu la chance de croiser pour la radio, est un personnage totalement vernien, au sens où il y a quand même un pessimisme technologique chez Jules Verne. Et Otomo, quand il était enfant, il tirait son plaisir de faire des maquettes superbes et après de les détruire, ce qui est totalement vernien, parce que toutes les grandes machines verniennes finissent à la casse ou dans le ravin ou terminées. Bon. Et Otomo était comme ça. Donc, il faut voir, du côté des Japonais, est-ce que, alors là, je ne sais pas, je me tourne vers Jean Dumas, est-ce qu'il y a eu beaucoup de tentatives verniennes chez les Japonais, en animé ou en
c'est
prise
plutôt,
de vue
c'est, les Japonais, c'est toujours une espèce de... Un peu comme tout le monde, d'ailleurs. Hein, c'est un peu le patchwork. Hein, donc,
ils vont picorer, plutôt.
On picore, mais c'est vrai que c'est très présent. Hein, Château dans le ciel, tout ça, il y a des clins d'œil. Mais c'est vrai, le film là, sans doute le plus vernien de tous chez les Japonais. Ouais. Mais les Japonais, c'est très important justement dans cette espèce de relais actuel de l'imagerie de rétro-futuriste ou steampunk qu'il y a autour de Jules Verne. C'est un peu eux qui ont relancé cette machine. Et puis on revient maintenant aux adaptations rétro de Disney, de Zeman.
Voilà, ouais. Ils ont fait une version l'Atlantide là un peu. Ils avaient fait les studios Disney avaient fait un Atlantide steampunk. Alors, de l'Atlantide.
Parce que l'imagerie finalement de ces films des années 50-60, c'est elle qui a marqué finalement. Les gens ne lisent plus tellement Jules Verne, ne regardent plus même tellement les gravures. Hein, mais en revanche, cette imagerie cinématographique, elle a fait date et elle continue.
Tout à fait. C'est toute la question est là, où est Jules Verne ? À droite ou à gauche, dans le texte ou dans l'image ? Et le cinéma doit choisir son camp, si j'ose dire, entre guillemets.
Je pense qu'il l'a choisi déjà.
Voilà.
Est-ce que Jules Verne, en tant que personnage lui-même, a été mis en scène ?
Oui, alors ça, c'est ça qui est intéressant dans les films muets, justement, c'est que quand on prend 20 000 sous les mers de Patton, on voit d'abord l'écrivain à table, et puis devant sa table d'écrivain, pardon, et puis il y a un petit carton qui dit ce que Jules Verne n'a pas dit. Et alors là, c'est toute l'histoire passée du capitaine Nemo, sa fille qui est devenue fille de la nature, etc. La manière dont à Hollywood on féminisait un petit peu ces histoires quand même. Bon, je sais que ça va être discuté et par vous, Agnès, histoire pour les garçons quand même, souvent un petit peu plus pour les garçons.
Ah non,
pour les
filles. Je suis entièrement d'accord.
Et puis aussi dans le film de Tourgenski, on voit Jules Verne devant un globe. Et c'est quelque chose qui arrive de manière récurrente aussi chez Zeman.
C'est l'introduction au film, oui.
Comment ?
Souvent, on pensait utile d'introduire le film par des petites scènes qui ne sont pas extraordinaires.
C'est la petite amorce.
Oui. qui, à mon avis, sont une fois de plus une instrumentalisation de ce pauvre Jules Verne qui redevient ce que Hetzel voulait en faire, là, du coup.
Alors que le personnage a des côtés assez... Effectivement, il y a l'affaire de l'attentat, là, mais je ne sais pas si ça... Je ne sais pas ce qu'on peut en tirer sur le plan d'une histoire personnelle.
Ah bah,
son neveu qu'il a révolvérisé et rendu infirme jusqu'à la fin de ses jours.
C'est... Non, mais on pourrait raconter la vie de Jules Verne. Oui, ça peut être intéressant.
Il n'y a jamais eu de biographie.
Si, il y a des tas de biographies, mais biographies, pas
en cinéma.
Il y en a une qui s'est intéressée à l'affaire, c'est la vie de Michel Verne, son fils, qui a monté les films Jules Verne, réécrit en partie l'œuvre de son père, est mis dans une pension au maîtrier, qui a eu des problèmes très très difficiles avec son père.
Au bagne, pas à l'époque, c'était pas encore un bagne pour adolescents.
Si, ce qui se passe, c'est qu'à Maîtrey,
intéressant.
Il y avait deux maisons. Il y avait donc le bagne, où, comme on sait, Jean Genet est allé plus tard, mais il y avait en fait ce qu'on appelait une maison familiale. Et en fait, c'est à la maison familiale que Michel a résidé, fort peu de temps d'ailleurs, parce que le directeur avait tout de suite rappelé Jules en lui disant qu'il valait mieux le retirer. Enfin bon, c'est quand même significatif des difficultés, oui.
Marc.
Alors moi, ce que je voulais rebondir sur ce qu'a dit monsieur là, c'est que souvent dans les adaptations cinématographiques de Jules Verne, Le Voyage dans la Lune, tout le cinéma, surtout hollywoodien, tout ça, a rajouté beaucoup de la gente féminine qui était très peu présente au départ dans les romans. Quoi.
Notamment dans Voyage au centre de la Terre, où il y a une dame qui est présente et c'est une hérésie. Parce qu'elle est absente du roman et il y a quand même étrange. Je veux dire, le roman est en tout cas bâti sur un ensemble masculin. Enfin, c'est très étrange aussi cette.
Mais le cinéma, il y a beaucoup d'hérésies. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que même Jules Verne, les adaptations au théâtre, il y avait déjà pas mal d'hérésies. Hein, le Tour du monde en 80 jours est quand même assez modifié par rapport au roman. Et c'est ça qui est amusant finalement. C'est beaucoup de gens disent "Bah non, Jules Verne, l'adaptation est infidèle. C'est jamais ça le roman, mais c'est Verne le premier qui a commencé." Hein.
Oui.
Et alors, ce qui est intéressant dans le théâtre, c'est que finalement, le Tour du monde en 80 jours a été joué environ 3500 fois au Châtelet, 2500 fois pour Michel Strogoff. Bon, c'était la pièce Bouche-trou de 1870 à 1940. Et pendant longtemps, en fait, en tout cas à l'époque de Méliès, et on peut dire même 10 ans après, c'était le cinéma, c'était encore le théâtre qui tirait le cinéma. C'est-à-dire que ces productions-là, elles étaient plus grosses que celles que pouvaient faire les Français au cinéma. C'est pas vrai pour les Américains, mais en France c'était évident. Alors c'était quand la société des ciné-romans a décidé de mettre en scène Michel Strogoff, c'était très très compliqué parce que du côté du Châtelet ou même des ayants droit de Verne, on disait maintenant le cinéma va tuer la poule aux œufs d'or du théâtre. Et pendant longtemps le théâtre était devant, tirait le cinéma. Ça c'est un phénomène qui est assez unique et qui est propre à Verne en particulier. Hein. On n'a pas d'équivalent en fait.
Vous avez commencé à en parler sur les films d'influence vernienne. Quels sont peut-être les plus grands films à conseiller avec cette influence-là?
Bon, moi, je parlerai des films de Karel Zeman quand même, parce qu'il y a vraiment une telle adéquation entre ce qu'on raconte et tout ce qui est visuel que ça devient... C'est vrai que c'est les gravures des romans originaux qui sont mis en image et d'une manière parfaite, quoi.
Les autres, pareil.
Oh bah Méliès, c'est sûr, Méliès. Ça c'est. Puis le Muet, oui. Zeman, c'est génial, voilà. Ça c'est vrai. Que
encore
c'est...
que je trouve que le Méliès, le Voyage dans la Lune, est plus welsien que.
Ouais. Oui, parce qu'il y a les.
Voilà,
il y a
les Sélénites. Les Sélénites, on rentre dans la Terre chez Verne, dans la Lune, ouais. Ouais.
Mais sinon, on attend toujours le film qui refondera le Verne au cinéma, quoi. Je veux dire. Et je trouve sidérant. Mais il y a des auteurs maudits comme ça, ça se plante toujours. Il y a Lovecraft qu'on attendait, là, c'était Guillermo del Toro, je crois,
qui devait
faire un film sur Lovecraft. Terminé. Et Verne, là, il y avait Fincher, attendez, ouf. Ouais. Terminé aussi. Donc il y a quand même des malédictions qu'il faudrait arriver à.
Mais c'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal de dire qu'il y a une malédiction. C'est vrai qu'il y a une malédiction peut-être du bon film, mais en même temps, il y a un phénomène d'adaptation qui est unique au monde. À part Shakespeare, personne n'a été autant adapté à l'écran.
C'est vrai, tous les 10 ans, il y a une version, hein, quand même. Ouais. avec la technologie du moment.
Mais moi, je suis un peu d'accord avec vous pour dire que les films de Zeman sont, alors, disons, dans les films un petit peu récents, sont les plus beaux.
Récents, c'est quand même. C'est,
ils sont à la fois beaux par eux-mêmes et parce qu'ils disent des rapports de Verne et de l'image. C'est ça qui est quand même assez fort, c'est qu'il fonctionne à l'intérieur de l'univers des gravures, des illustrations.
Ils ont cette lenteur des années, des films des années 70, qui est très agréable. C'est vrai qu'on est, on prend le temps. Enfin, ça a dû, peut-être, ça aurait peut-être un petit peu de mal aujourd'hui un peu à passer parce que les gens veulent de l'action, chose, mais quand on rentre dans Zeman, quand on fait un petit peu l'effort de rentrer là-dedans, c'est très très séduisant.
Et sinon, à la télé, il y a le Willem Storitz avec Jean-Claude Brouhot. Alors ça nous rajeunit, mais c'était assez fort. Enfin, pour l'époque, c'était assez puissant dans le combat avec le sabre et tout. Ouais.
Bah, le Bluval est très bon. Hein. Ouais. Le Bluval,
en plus, c'est Jean-Claude Roux a joué deux fois, hein, parce qu'il joue aussi dans Le Phare du bout du monde. Ouais. Alors, il y a un autre petit Jules Verne, moi, qui m'a plu aussi quand j'étais tout môme. C'était les Enfants du Capitaine Grant, avec Maurice Chevalier. Ah. Il y a aussi de Disney, hein, George Stevenson, donc, qui avait un charme au niveau des matte paintings, au niveau du visuel, qui était aussi très sympa. Quoi.
Mais Disney adorait Verne et s'identifiait à Verne. Donc c'est assez intéressant de voir.
C'est jamais laissé pousser la barbe. Hein,
On peut détester Disney, mais il y a des points communs. Il y a de vrais points communs entre Disney et Verne. Verne, c'était aussi quand même un amuseur. Hein.
Oui, mais un amuseur hanté.
Mais il y avait une attraction.
Disney était hanté aussi. Hein.
La première fois, moi, j'étais à Disneyland à Los Angeles. Il y avait une attraction. C'était on rentrait dans le Nautilus et puis on faisait une petite vadrouille sous l'eau. Hein,
Et à Paris aussi.
À l'exposition de Buffalo, à l'exposition panaméricaine de 1901, il y avait un voyage dans la Lune. Donc les gens rentraient dans un vaisseau spatial, on les emmenait ensuite dans une espèce de montagne qui était supposée être la Lune, habitée par Sélénite. Là, c'était des Lilliputiens qui accueillaient. Une espèce d'adaptation assez bizarre. On ne peut même pas dire que c'était une adaptation du film de Méliès. C'était peut-être un petit peu de la Lune à un mètre, mais le voyage dans la Lune n'était pas encore sorti. Et alors, c'est... On a le même. Bon, c'est là un petit peu une digression, c'est pas Vernien, c'est. On avait en Angleterre William Paul qui avait fait des adaptations de Verne, les premières adaptations un peu comme Méliès, hein, c'était un ami de Méliès, c'était à lui que Méliès avait vendu une caméra. Il avait créé une machine qui permettait de. C'était un voyage à travers le temps, une espèce de grande roue. À chaque fois, les gens s'arrêtaient devant un écran qui représentait un âge. Et c'est ça qui a donné à West l'idée d'écrire la machine à remonter le temps. Au départ, c'était un dispositif cinématographique. Et c'est très intéressant parce qu'on voit cette idée-là, elle est vraiment à l'origine du cinéma. Hein. Le cinéma de Méliès, c'est de la simulation,
c'est la prestigitation
de la magie.
Puis on trouve ça aussi avec le film d'Irving Allen fait par George Pal sur la machine à voyager dans le temps, où il y a ce truc d'animation aussi avec tout qui s'anime image par image. Quoi.
Ouais, à la manivelle.
Voilà.
Quelle est la. Hop, si on peut m'ouvrir le micro, le chef.
Quelle est l'actualité? Est-ce que Jules Verne est toujours d'actualité pour le cinéma? Il y a 20 000 lieux qui arrivent là, donc j'ai vu la date 2016. Mais est-ce
De qui?
C'est une excellente question. 20 milieux sous les mers, Capitaine Nemo, 2016 sur Allociné.
Ah, alors ce Fincher aurait retrouvé ses poissons.
Peut-être. Est-ce que Jules Verne est toujours autant d'actualité? Est-ce qu'il y a autant de bouillonnement de projets autour de son œuvre au cinéma?
Une très belle exposition à Nantes.
Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'aux États-Unis, il y a plus de projets en cours. Il y en a moins une trentaine sur Philip K. Dick que sur Jules Verne pour l'instant.
Est-ce que c'est un peu passé, quoi,
Non. Moi, je pense pas, puisque à mon avis, ça n'a pas encore eu lieu. Enfin, il y a un mode d'adaptation de Jules Verne qui n'a pas encore été fondé au cinéma, celui dont j'ai parlé. Moi, j'attends toujours, au contraire. Il y a mille et une raisons aujourd'hui de l'adapter, et je trouve que à la fois sur le plan de visuel. On a des possibilités phénoménales et sur le plan dramatique, je veux dire, on est toujours, c'est toujours au cinéma, selon moi, un avenir.
Alors, moi, je pense que Jules Verne, proprement dit, je ne sais pas, ça va dépendre, on va voir si ça revient un peu à la mode. Il y en a quand même de temps en temps, on voit apparaître un film adapté de Jules Verne. Ce que je vois, par contre, c'est que le phénomène steampunk est de plus en plus important et qu'on retrouve toute cette esthétique à vapeur dans les jeux vidéo. Hein. Il y a même versions d'Assassin's Creed, maintenant, c'est carrément steampunk. C'est maintenant, comme il y a le genre cyberpunk, il y a le genre fantasy, il y a le genre steampunk qui est complètement Jules Vernien. Donc,
c'est peut-être un peu le post-cinéma aussi, parce que c'est pas qu'au cinéma, des gens qui se déguisent, c'est des parcs, c'est des jeux vidéo.
Tout à fait. Mais c'est devenu un genre en lui-même. Quoi.
D'ailleurs, à l'exposition, on voit un carnaval nantais.
Ah oui, on en voit plein.
Extraordinaire, vernien, avec des costumes. Donc c'est marrant parce que les cosplays ici répondent au carnaval nantais de 1931.
Il y a plusieurs cartes postales que j'ai trouvées. Il y en a de 1929, 1931. En fait, c'est constant à Nantes. Hein. Il y a des gros chars très impressionnants. Le voyage dans la Lune est magnifique. Le tour du monde en 80 jours. Plein de choses comme ça. Parce que ça résonnait avec le cinéma dont je vous parlais tout à l'heure, le cinéma muet, qui a eu énormément de succès. Comme dans les années 50, les films de Disney.
Tout à fait.
C'était des succès mondiaux. Mais moi, je veux faire juste une petite parenthèse là sur... On attend peut-être un autre grand film. On ne sait jamais, finalement, ce qui peut se passer. Il y a eu beaucoup de cycles, finalement, de cinéma différents de Verne. Il y a eu des cycles français, il y a eu des cycles américains. Peut-être que quelque chose va apparaître encore. Nul ne le sait. Mais ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est justement... c'est un collectionneur vernien qui a eu l'idée, finalement, de... Peu de gens, finalement, se sont intéressés à ça depuis 30 ou 40 ans. Et lui, il a comme ça, collectionné des lobby cards, des affiches. Et finalement, au bout du compte, on se rend compte quand même de la permanence de ce cinéma. Il est là depuis très, très longtemps. Cette chose-là était là, mais on ne s'en rendait pas compte, finalement. Il faut des collections. Et là, on voit que ça existe.
Il nous reste une poignée de minutes pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Oh là, plein. Génial.
Bonjour, merci pour cette conférence. J'avais une question, justement, sur les adaptations de Jules Verne au cinéma. Vous attendez un prochain film, mais est-ce qu'on ne risque pas, avec justement l'esthétique steampunk, de garder Jules Verne dans un contexte 19e siècle, justement de le bloquer, alors qu'on pourrait imaginer, par exemple... reproduire un esprit vernien, c'est-à-dire un positivisme scientifique, pas béat, assez réaliste, et avec des personnages aussi hauts en couleur, mais par exemple dans notre société actuelle, parce que justement ce serait plutôt un état d'esprit à montrer qu'une simple esthétique. Merci.
Alors, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que le propre de Jules Verne, c'est que l'aspect visuel est très important à cause des illustrations, tout ça. Et si on faisait des personnages Jules Verniens Nemo dans un sous-marin atomique normal, je ne sais pas si on imaginerait cet aspect Jules Verne.
On a eu cette question avec les livres, finalement, quand Actes Sud a décidé d'illustrer de nouveau, avec de nouvelles illustrations, les romans de Jules Verne. Bon, moi, je trouve ça très intéressant, la démarche, mais personnellement... pour moi, les images, elles sont, c'est les images des graveurs de Jules Verne et c'est indépassable.
C'est bien ce qu'on dit, c'est si à moi, ça pouf. Voilà. Il y a une espèce d'épanchement de l'un dans l'autre.
Ouais. C'est un peu comme les illustrations pour Alice au Pays des Merveilles ou pour Peter Pan. Il y a quand même une esthétique, un visuel avec ce que ça raconte qui est très très imbriqué l'un dans l'autre. Et je ne sais pas si on trouverait ça Jules Vernien. Quelque chose qui serait avec des héros, avec le capitaine Nemo habillé avec...
Il y a des modernisations quand même, on en parlait, les tribulations, enfin...
Oui.
Parce que je pense effectivement que ça, c'est une réponse qu'on peut donner, c'est-à-dire la traduction visuelle. Mais comme disait monsieur, je pense effectivement qu'il y a aussi chez Jules Verne un contenu qui est en fait un regard sur la société et un regard sur la manière dont l'homme va habiter le monde... qui reste intéressant. Mais là, ça devient très difficile. C'est-à-dire comment, justement, on arrive à donner cette traduction de Jules Verne. Et je pense que ça nous ramène un peu au début du débat. Ça n'a pas été réussi. C'est-à-dire jusqu'à présent, on passe nécessairement par la traduction visuelle, avec toutes ces séductions, d'ailleurs.
Moi, ce que je me demande, c'est si ce serait perçu comme Jules Vernien.
Pas forcément. Ouais. Pas forcément.
Une autre question.
Bonjour. Alors moi, je me posais une question sur les adaptations de Jules Verne et surtout sur 20 milieux sous les mers. C'est le problème, effectivement, de la place de la femme dans ces adaptations. Que dans celui de Disney, il y a l'otarie qui appartient à Nemo qui finit à Ned Land. Et dans un autre film, il y a une fille, le capitaine Nemo veut l'épouser et finalement, elle finit avec Ned Land. Donc comment faire pour mettre en place un personnage féminin sans tomber dans la romance niaise, elle veut sortir avec machin, mais bidule l'aime, etc. Vraiment, comment faire pour les romans verniens, mettre en place des personnages féminins ou réussir à faire des films sans femmes, sans passer pour un film machiste, etc.
Alors, d'abord, je pense qu'il serait sans doute bon de ne pas vouloir mettre des personnages féminins où il n'y en a pas, puisque par ailleurs, il y en a. Voilà. Donc, on a rappelé Mistress Brannigan. Mistress Brannigan, ce n'est qu'une histoire de femme. On a rappelé Les Ânes Noirs. Nell, c'est un personnage extrêmement fort. Et dans le Tour du Monde, il y a Aouda. Donc, effectivement, ça fait partie un peu des légendes urbaines autour de Jules Verne. Il n'y a pas de femme. Mais en fait, il y en a. Ouais. Voilà. Donc, il suffit de les prendre là où elles sont, avec des personnages qui sont très, très forts. Et aussi intéressant que les personnages masculins. Alors, peut-être que... Alors, il y a plein de choses à dire sur Jules Verne et les femmes, donc on peut s'amuser à le faire. Mais en plus, le fait qu'on ait, on ait monté des romans où il n'y avait pas beaucoup de femmes et on a rajouté des femmes à Libby ou je ne sais quoi, ça en dit peut-être plus long sur la société machiste que sur Jules Verne. Mais sinon, des romans, des personnages féminins, il y en a. Hein.
On va peut-être passer à une autre question. Hop, allez, monsieur qui est juste en face, puis après, on passera.
Ah oui, c'est pas la peine. Bonjour. Vous avez parlé de livres plutôt feuilletonnants. Est-ce que le format série ne serait pas peut-être plus adapté pour Jules Verne que sur grand écran ?
C'est d'ailleurs souvent pour ça que certaines adaptations à la télévision en série, par exemple pour Michel Strogoff, peuvent être plus pertinentes parce qu'elles donnent aussi le temps nécessaire. Puisque Michel Strogoff, il faut traverser la Russie, c'est fort long. Et c'est ce que Jules Verne a voulu rendre. Quand on se donne la peine de détailler tous les épisodes, ça prend beaucoup plus de force, oui.
C'est vrai qu'une série télé d'aujourd'hui, alors là, effectivement, sur Jules Verne, ça serait sûrement très, très spectaculaire. Quand on pense à des romans comme Mathias Sandorf, qui est vraiment, alors là, qui est un hommage au Comte de Monte Cristo, là, vous avez de quoi faire des séries, une série extraordinaire, avec tout, là, en plus. Là, la preuve en est avec le crypta, les codes, les histoires d'hypnose, l'attaque de l'île. Alors là, on n'en peut plus. Là,
puis là, on aurait vraiment le temps de peaufiner les personnages, de rentrer dans leur psychologie, de faire un travail formidable.
Surtout Sandorf qui disparaît, qui réapparaît. Non, c'est génial. Ouais.
Une dernière question. On fait vite pour laisser la place après.
Merci. C'est tout simplement pour attirer votre attention sur un film qui n'est pas tellement une adaptation de l'œuvre vernienne, mais qui donne tout à fait l'esprit de l'œuvre vernienne. C'est Fitzcarraldo de Werner Herzog, que vous connaissez peut-être, qui est l'obstination du capitaine Ataras et du capitaine Nemo, très bien rendue par Klaus Kinski, plantée dans l'environnement de la Jangada avec le sujet du château des Carpates. Alors, à force de voir ce film, de regarder ce film-là, on a vraiment l'impression que ce film-là...
C'est quel film ?
C'est Fitzcarraldo de Werner Herzog.
Film vernien, alors à 125.
Oui, tout à fait. J'ai essayé de l'approcher pour faire un entretien avec lui à ce sujet-là, mais il n'a pas été accordé, mais ça reste à faire.
Une petite réaction, alors très vite.
C'est vrai que Herzog et Jules Verne, j'ai travaillé sur Herzog récemment, c'est vrai que c'est une très bonne idée. D'autant plus c'est quelqu'un qui a fait Munich-Paris à pied pour sauver de la mort l'historienne allemand. Donc il a un tempérament vernien, mais c'est vrai que Fitzcarraldo, c'est bien évidemment un film très vernien.
Merci à nos intervenants, c'était passionnant. Merci à vous, vous pouvez tout de suite les retrouver. Bonne journée.